Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 9 octobre 1997 à Saint-Jeanard.
Seuls les saints y parviennent. vue du côté philosophique, c'est l'humanité qui a mûri de manière étonnante du côté de l'amour. Parce que du côté de l'intelligence, l'homme n'est pas plus intelligent parce qu'il est chrétien. Puisque c'est la foi. Et la foi n'est pas une science. La foi est une connaissance d'enfant. La connaissance d'enfant s'appuie sur son père, l'autorité. Il s'appuie sur sa mère. Il croit. L'enfant croit avec une spontanéité extraordinaire. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, et c'est vrai que le mystère de l'incarnation, le mystère du Christ, a mûri l'humanité, le cœur de l'homme. Alors là, qui s'est développé d'une façon unique, dans l'Ancien Testament, chez les Grecs, il y a les héros, Socrate. C'est pour ça qu'on a écrit ce petit livre curieux et qui soulève beaucoup de problèmes de Socrate à Jésus. Socrate était le héros pour les Grecs, au point de vue moral, le martyr. Et Jésus, martyr d'amour. On ne peut pas aller au-dessus de Jésus. L'humanité atteint un sommet. Jésus dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Plus grandes. Mais il ne dit pas, vous aimerez Dieu plus que moi. Non. Ça, impossible. Or, la dignité ultime de l'homme, c'est l'amour. Et c'est une intelligence au service de l'amour. Ça, c'est la dignité la plus grande, vécue dans le cœur du Christ. Je crois qu'il faut être très attentif à ça, quand on fait de la philosophie. Parce que il y a eu un phénomène unique dans l'humanité. L'humanité a vu son Dieu d'elle-même. Et l'humanité a connu dans le Christ un sommet incomparable, un sommet qui demeure caché, présent, l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, pour le philosophe, c'est quelque chose d'inouï. Et il faut que nous ayons tous cette réaction première des philosophes qui cherchent la sagesse en face de la révélation chrétienne. Normalement, un chrétien, par son baptême, il a le don de sagesse. Donc, vous voyez, il atteint par l'amour, grâce à la foi, un sommet. Et au point de vue du développement de son intelligence, c'est pas le baptême qui lui donne un surplus d'intelligence. C'est bien dommage. Ce n'est pas parce que j'ai été baptisé tout gosse que je deviens toujours premier en mathématiques, premier en sciences, premier dans tous les domaines. Non. Prix d'excellence. Non, 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 non. Il y a des chrétiens qui sont pas très intelligents. Faut bien se le dire. Il y a des chrétiens sagesse est donnée aux enfants. Et on le voit bien, puisque la petite Thérèse va être proclamée docteur de l'Église. L'Église qui reconnaît que la venue du Christ dans le monde fait que les enfants ont la sagesse. Si vous ne devenez comme un tout petit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et il faut bien voir que la philosophie, grâce au mystère du Christ, je dis grâce au mystère du Christ pour l'homme, puisque l'homme par le Christ est sauvé. Mais la philosophie est détrônée. Il y a une voix sapientiale qui parle le Christ est une voix expresse. Tandis que le petit sentier caoutou philosophique est complètement dépassé. Pour un sage philosophe, voir qu'un enfant reçoit la sagesse, s'est passé dans sa vie, je ne sais pas. Mais tu vois-t-il que quand il a fait son grand discours pour le Collège de France, il s'est défendu pour montrer qu'il n'était pas athée, mais qu'il n'était plus chrétien. Parce que le christianisme, au fond, massacrait la sagesse philosophique. Il a ressenti ça avec une vigueur étonnante. Il faut lire ce discours, parce que c'est dans notre 20e siècle, c'est tout proche de nous. Premier Merleau-Ponty, qui à ce moment-là, quand il enseignait, était sûrement quelqu'un qui avait un prestige étonnant sur ses étudiants. Au seul soir où j'étais chez les Dominicains, on voyait des étudiants et des étudiantes qui perdaient la foi à cause de Merleau-Ponty. J'en ai vu plus d'un. Et il cherchait. Et quand Merleau-Ponty a fait ce discours, parce que ça a été une question très disputée de ce temps-là, on disait qu'il était athée. C'était pas vrai. Et Merleau-Ponty s'est comparé à Socrate, qu'on considérait comme athée, parce qu'il allait plus loin dans l'ordre de la vérité que les autres. Alors il a eu le toupet de se comparer à Socrate, allant plus loin dans l'art de la vérité et de la recherche de la vérité que les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il disait « J'aime pas te parler à un catholique, parce qu'il sait tout. » La foi. Et c'est vrai, il faut sentir ça, je crois que c'est très important, que de fait, la foi dans le Christ a fait que le philosophe était détrôné. Et quelqu'un qui est détrôné, ou il l'accepte, parce que il voit que ça va plus vite, que ça va plus loin. Pour beaucoup d'humilité. Et le problème est vrai pour chacun d'entre nous, tant qu'on n'a pas senti ça, on n'est pas vraiment chrétien. Je crois que c'est ce ferment propre de la foi et du christianisme de la grâce qui est n'est la même. La patte humaine monte avec Aristote très haut. Et la patte humaine est immédiatement à son sommet. Jérusalem, l'Orient, Dorian Daley. C'est une lumière de salut, d'amour, de recherche de la vérité. Dans la dernière semaine, Jésus dit, je suis venu pour un témoignage à la vérité. Il y a aussi, ça existe, Athènes. Il y a Rome. Paris, pas grand-chose. Un peu d'humilité pour les Parisiens. Il n'a pas été dans la compétition. Après, il s'est rattrapé, hein, ça c'est sûr. Et c'est important de se dire ça. Et ces trois ont été respectés par le ferment chrétien. Je sais bien, Jésus n'est pas été à Rome. Il aurait pu, hein. Rapidement. Non, il laissait ça à Pierre. Il s'est effacé devant Pierre pour montrer que tout ce que Pierre faisait, c'était lui qui le faisait. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est très important de regarder ça et d'y réfléchir. Vous voyez, à la source, c'est là où le philosophe nous aide. Il nous aide à comprendre ce phénomène extraordinaire du mystère de l'incarnation. Unique. Puisque la foi respecte l'intelligence humaine, il y aura donc une coopération qui va se faire de la foi et de l'intelligence, de la sagesse mystique et de l'intelligence. Il y a deux sagesses. Il y a deux sagesses. L'une, mystique, tant de sagesse. La sagesse philosophique. Et la coopération de ces deux sagesses va en donner une troisième. La sagesse théologique, qui est le fruit de la coopération de la sagesse philosophique et de la sagesse mystique. Vous voyez que la théologie va naître d'abord comme une théologie mystique. C'est ça qui est très curieux et très intéressant, parce que la foi est une foi de salut dans le Christ. On est sauvé. On est sauvé par la foi. On est justifié par la foi. Donc c'est une lumière de vie. Et on verra progressivement chez les théologiens la philosophie grecque qui est assumée. D'abord, les stoïciens et les néoplatoniciens, et en dernier lieu, Aristote, Thomas d'Aquin. Et vous voyez progressivement la théologie apparaître. Avec Thomas d'Aquin, la théologie a droit de cité. C'est une science et une sagesse. Une sagesse acquise. Elle a le droit de citer l'université. Et l'université a commencé par être catholique. Et c'est ce que la Sorbonne a beaucoup de peine d'accepter, d'avoir son arrière-grand-père qui était catholique. C'est pas commode à porter, ça. Parce qu'elle est bien laïque aujourd'hui. Avec le passage du pape, il y a des tas de choses qui renaissent. C'est une chose. pas la main du pape. Ça, c'est une... Ça, c'est à garder. C'est une perle. Et oui, mais c'est toujours les mêmes problèmes, oui. C'est exactement le même problème. Est-ce que baiser la main du pape, l'anneau du pape, est-ce que c'est un signe d'esclavage? Respecter la dignité de quelqu'un, on n'hésite pas quand il s'agit du lama. Mais le pape, c'est dangereux. Parce que le lama, on l'appelle, je crois qu'actuellement, c'est le 12e de sa sainteté. On a pris les titres du pape, on le donne au lama. Dans la laïcité, c'est parfait. Il faut sentir ça, parce que il faut être intelligent pour être vraiment fidèle jusqu'au bout. Et voir comment les alliances ou les mésalliances, foi, intelligence, se font bien Thomas d'Aquin. C'est la plus belle alliance au point de vue de la lumière entre la foi et l'intelligence. Point de l'intelligence, il a cherché la vérité avec une indépendance farouche. La vérité vous libérera. Il a cherché la vérité et ça l'a libéré. Et tous ceux qui font des faux pas ne sont pas libres. Ils dépendent de l'opinion des autres. C'est ennuyeux pour une personne. C'est très important pour nous de comprendre ça. Alors, voyez, le second moment de la métaphysique, le second moment de la métaphysique, Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin a été Aristote pour découvrir sa métaphysique. Ça, c'est sûr. Parce que la recherche de la vérité de l'intelligence va jusque-là et doit aller jusque-là. Vous fondez l'adoration, humainement parlant, philosophiquement parlant, grâce à la découverte de Dieu comme créateur. Et vous montrez que adorer le créateur fait partie essentielle de l'homme. Et que la laïcité, comprise d'une manière étroite, comme en France, et comme dans d'autres pays, mais en France c'est très net, c'est une mutilation de l'homme. Or, on n'a pas le droit d'accepter qu'on mutile l'homme, comme on n'a pas le droit d'accepter qu'on tue des enfants innocents. Un droit à vivre, puisque les droits de l'homme veulent être respectés. Alors, au nom des droits de l'homme, on ne peut pas accepter qu'on tue l'innocent. Au nom des droits de l'homme, on n'a pas le droit de dire que l'affirmation de Dieu et l'adoration ne fait pas partie de la personne, partie essentielle de la personne humaine. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Mais ça, c'est Thomas d'Aquin qui montre ça admirablement. Les trois sagesses. Un moment très important pour nous. Pour comprendre les rapports avec la plus grande précision de la grâce chrétienne et de la nature. Des rapports entre Adam cette humanité hérite d'Adam un héritage lourd, péché originel. Et le Sauveur, qui est la tête de l'Église. Et si on veut regarder les rapports du temporel, politique, et les rapports de la grâce chrétienne, il faut tout le temps revenir là. Et le moment décisif a été d'établir une théologie scientifique qui est sagesse. À la manière de Thomas d'Aquin. C'est quelque chose de très important, je crois, dans une topique au niveau proprement de la métaphysique. Il y a Aristote qui l'a inventé et Thomas d'Aquin qui l'a utilisé magnifiquement, de façon grandiose, la cathédrale de la Somme théologique. Quand le ciel est gris, les vitraux sont pas très lumineux. Il faut un grand soleil pour que les vitraux soient très lumineux et que la Somme théologique apparaisse comme une grande lumière. Mais songez, réfléchissez sur les trois sagesses. C'est très important pour nous. Juste après Thomas d'Aquin, la sagesse théologique a perdu sa dignité. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue entre Aristote et Thomas d'Aquin, c'est qu'il n'y a pas de successeur. C'est très étonnant, ça. Et c'est comme un phare. Alors il tourne. Au moment où il illumine, vous le captez. Et après, la théologie est considérée par les philosophes comme rivale. C'est plus une coopération. C'est une rivalité avec notre cher Descartes. Ça a commencé avant lui. Et ça a commencé avant lui avec Occam, 14e siècle, un théologien. Occam a été condamné par l'Église, non pas de Rome, mais l'Église d'Avignon. Il fallait que ce soit assez gros pour que l'Église d'Avignon puisse condamner un théologien, Occam. Occam a identifié la sagesse métaphysique à la logique. C'est-à-dire, c'est de mettre la métaphysique au panier. Prenez, parce que la logique est typiquement humaine. La logique ne peut rien nous dire de Dieu. Alors, ramener la métaphysique sagesse à la logique, c'est terrible. Et cela s'est fait. Faut être très attentif à ça. Parce que, en théologie, on dit couramment la métaphysique, la philosophique est au service de la foi. Puisqu'elle coopère. Et dans toute coopération, il y a un premier, il y a un second. Alors, on a dit ça et on le répète encore. Mais il y a service et service. Il y a un service qui peut conduire à l'esclavage. On voit ça. Il y a des gourous, des sectes qui conduisent à l'esclavage. Et il y a un service qui vous donne la noblesse de celui qu'on sert. C'est la théologie. La foi peut se servir de la métaphysique. La foi peut se servir de l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de plus profond et de plus radical. Et alors à ce moment-là, le service de l'intelligence dans la foi chrétienne ennoblit l'intelligence. Mon intelligence métaphysique est ennoblie si elle sert à réaliser une sagesse théologique. C'est pour cela que l'intelligence de Thomas d'Aquin a une telle noblesse. Il y a quelque chose d'assez étonnant là, et de très grand. Et voyez, l'équivoque est là. Deux manières de servir, pas une seule. Servir comme un esclave. Servir en s'ennoblissant. Et c'est bien le geste de Jésus du lavement des pieds. C'est curieux que le lavement des pieds nous fait comprendre l'ennoblissement de la métaphysique quand elle est prise par la foi pour servir à mieux comprendre la parole de Dieu, pour mieux comprendre l'enseignement de Dieu pour moi. Le lavement des pieds confirme ça. Parce que Jésus montre qu'il y a deux manières d'être esclave. Jésus, en lavant les pieds, a montré toute sa noblesse. Le Fils de Dieu. Une noblesse d'amour. Le second moment, le troisième moment, mettez Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes, avec le fondement de l'erreur, Occam. Descartes veut faire une philosophie montre que sans la foi, j'ai des certitudes. Vous comprenez bien que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et la philosophie de Descartes ne cherche plus la vérité, mais cherche la certitude. D'où la rivalité. Descartes crée la rivalité entre foi et métaphysique. Évidemment, la métaphysique n'est plus la métaphysique d'Aristote. Elle est la métaphysique d'Occam. Et Occam dit que la métaphysique et la logique s'identifient. Or, la logique est servante. Par nature, elle est servante. Tandis que par nature, la métaphysique n'est pas servante. Elle a une dignité aristocratique unique. Elle est première dans l'ordre de l'intelligence humaine. Et il faut saisir ça en profondeur. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Descartes est un révolutionnaire de la pensée. On le verra en métaphysique, hein, parce que c'est important de le saisir. Il y a eu, avec Descartes, une révolution interne de la pensée. À ce moment-là, la métaphysique, la philosophie, ne peut plus être totalement servante. Elle est servante à gage, juste ce qu'il faut. Mais tout ce qu'elle peut, elle retrouve son autonomie. Descartes peut apparaître comme celui qui est le sauveur de l'autonomie de la philosophie. Pour Descartes, quantité de personnes, même de très bons chrétiens traditionnalistes, de très bons chrétiens. Il ne faut pas toucher à des cartes. Dans un des salons de Lyon, j'ai eu une fois une discussion. Après, j'ai compris qu'il fallait faire grande attention. Je disais ce que je vous dis. Alors, ça a été une opposition farouche. Vous faites passer avant le cogito, avant la vérité, avant l'être. À ce moment-là, la sincérité est première et ce n'est plus la vérité. Et c'est le grand mal de notre monde d'aujourd'hui. La sincérité est première. Je sens ça comme ça. Alors la sincérité va ça. Mais Descartes représente vraiment un grand tournant dans les rapports de la philosophie, de la métaphysique et de la foi. Au fond, c'est la mort de la métaphysique Descartes, avec un enterrement de premier ordre, première classe. Parce que le cogito passe avant l'être. Et c'est dit remarquablement en latin, cogito ergo sum. Le ergo est en dépendance du cogito. Et donc l'être, je suis de Descartes, dépend de sa pensée. Et quand Descartes dort, son être est néantisé dans son sommeil. Sartre. Il y a un lien direct entre Descartes et Sartre. L'être et le néant. Et c'est là où on voit combien les erreurs de la pensée vont loin. C'est très net que la théologie n'a plus sa noblesse de sagesse dès qu'on voit une rivalité entre le cogito et je crois. Descartes jusqu'au bout a gardé sa foi, mais il l'a vidée de sa vigueur vitale. Et elle a été uniquement une foi correcte. La foi du bien-pensant, une foi correcte. Une foi logique. Alors à ce moment-là, ce n'est plus le mystère de la tradition. Le mystère de la tradition de l'Église, c'est un mystère. Parce que l'Église est conduite par l'Esprit-Saint. Mais les hommes ramènent ça à un patrimoine. Vérité, sincérité, mystère de la tradition, patrimoine humain. Alors, on voit ce développement, et à partir de Descartes à Hegel, il y a une continuité. Et alors à ce moment-là, là où la métaphysique s'achève, comme sagesse, chez Aristote, c'est le point de départ de la théologie de Hegel. Et la théologie absorbe la philosophie. Toute philosophie est théologique. C'est dans la vision de Dieu, dans la connaissance de Dieu, que je découvre la connaissance de l'homme. C'est au fond le fidéisme poussé à l'extrême. Et à partir de Hegel va naître la dialectique comme seule manière de penser au plan philosophique, au plan métaphysique. Il n'y a plus de métaphysique. Vous avez les idéologies athées qui sont toutes dialectiques. Les idéologies athées, la sagesse philosophique va ramper dans les idéologies athées. Pour être philosophe, il faut être athée. Et en très gros, hein, un vol de l'aigle. On voit la dégradation qui se fait progressivement. Vous voyez comment le mystère de la foi a mûri l'intelligence humaine d'une façon magnifique dans Thomas d'Aquin, d'une façon magnifique dans la théologie de Thomas d'Aquin. Cette sagesse pour l'Église. Mais comment, en même temps, ce mystère de la foi, qui est quelque chose de si grand, peut être trop lourd à porter pour l'intelligence humaine. Alors l'intelligence humaine, pour pouvoir vivre, fait que la métaphysique s'identifie à la logique. On a peur. Et ça n'est plus qu'une logique. Et devenant une logique, elle est devenue rivale de la foi. Et on a considéré que la foi était un obstacle majeur à l'autonomie philosophique. Feuerbach est celui qui a mis ça en pleine lumière. Que si vous êtes croyant, vous ne pouvez pas être philosophe. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus de liberté de penser. Feuerbach dit ça en identifiant être et vie. Si vous êtes croyant, vous croyez en la création. Vous êtes donc premièrement dépendant du Créateur. Et vous n'avez donc plus de liberté. Et de Feuerbach est née ces diverses formes d'idéologie athée. Le philosophe constate ça. Nous venons, nous, après. Il faut donc que nous repensions avec beaucoup de fermeté à ce qu'est la métaphysique, ce qu'est la philosophie. Et si nous sommes croyants, c'est un devoir, peut-être le devoir premier pour le chrétien, de montrer que la foi ne fait pas de nous des esclaves, que la foi ne fait pas de nous des imbéciles, que la foi n'est pas un obstacle.